Bonjour à toutes et à tous. J'imagine que vous savez tous, mais si par hasard vous ne savez pas, hier soir on a eu la confirmation par les gendarmes que notre sœur Marcel est décédée. Elle est partie pour être dans la présence de son Sauveur et notre Seigneur. Et hier soir, j'étais en train de réfléchir parce que j'ai dû faire un choix, prendre un choix. Est-ce que je continue avec ce que j'ai déjà préparé ou est-ce que je change et je traite cette idée de la mort? Et j'ai décidé après de changer. Et j'avais deux désirs dans mon cœur. Un désir, c'est que Dieu soit glorifié. Parce que quand nous sommes vraiment attristés, profondément blessés, il est difficile en tant qu'humain de louer le Seigneur, de tourner nos yeux vers lui et dire « Tu es tout-puissant, tu es bon, tu es un Dieu d'amour. » Ça, c'est difficile. Et notre Dieu, il le sait. Il sait que nous sommes faits de la poussière. Ça, c'est la prière de David, de psaume 103. Et j'avais un autre désir, et ça, c'est le bien du peuple de Dieu. J'ai pensé à vous. Vous qui connaissez Marcel depuis longtemps, plus long que moi. Et je savais que vous êtes blessés et vous avez de la tristesse. Et donc, j'ai demandé à mon père qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je peux faire. Et finalement, je suis arrivé à cette idée qu'il faut qu'on donne notre attention à l'Évangile. Parce que c'est l'Évangile qui est notre espérance et notre consolation jour après jour après jour. Ce matin, je veux qu'on considère ensemble le fait que l'incarnation, ça c'est Noël, l'incarnation efface la crainte de la mort. L'incarnation efface la crainte de la mort. Et nous allons considérer deux versets d'Hébreux, chapitre 2, les versets 14 et le verset 15. Mais avant de donner notre attention à la Bible, prions ensemble pour l'aide du Saint-Esprit. Père Céleste, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous confessons notre faiblesse, nous confessons nos péchés qui bloquent souvent notre compréhension. Mais pendant ces minutes, nous demandons ton aide afin que nous puissions se concentrer sur ta parole. Nous demandons aussi que le Saint-Esprit ouvre nos cœurs afin que nous puissions écouter avec attention, afin que Jésus soit glorifié, que nos cœurs soient consolés. Et nous prions dans le nom de notre Sauveur et notre Roi, Jésus. Amen. Si vous connaissez la Bible, Vous connaissez que la Bible a, comme les serres livres, deux passages qui sont très très beaux. On commence en Genèse chapitre 1 avec la description de la création du monde par Dieu. Et le chapitre 1 se termine avec ces mots. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. S'il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le sixième jour. Et ça, c'est le Genèse 1, 31. Et la Bible présente la création comme Dieu a créé quelque chose parfait, quelque chose sans problème. Et à la fin, dans le livre Apocalypse, chapitre 21, les versets 3 à 5, nous lisons ces mots-là. J'entendis du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Dieu habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et dans les deux, le début et la fin de la Bible, on a la présentation de cette vision très très belle. Le monde parfait. Parfait, pas de larmes, pas de douleur, pas de deuil. Mais nous vivons dans le présent. Et quelle est la réalité présente? La réalité présente se trouve partout et autour de nous, mais en Romains chapitre 5, nous lisons ces mots. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, quoi? La mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Il continue. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. La règne de la mort sur l'homme, elle est partout. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. On a cette présentation de la réalité. Un début parfait sans mort. Une fin parfaite sans mort. Mais maintenant, autour de nous, la mort règne. Tout doit mourir. Et pourquoi? À cause de à cause du péché. Écoutez bien, je ne veux pas dire que Marcel est mort à cause d'un péché spécifique qu'elle a commis. Ce que la Bible dit, c'est que le péché a introduit dans notre monde la mort. Et maintenant, nous sommes tous sous la mort. Ça, c'est la réalité présente. Et nous vivons dans la crainte de la mort. J'ai trouvé un site, c'est en anglais, overcomingthefearofdeath.org. Et j'ai lu ces petits messages écrits sur le site. Et une personne a écrit: quand je pense à ma mort, je me sens un stress extrême et mon cœur me fait mal. Et ensuite, j'ai 17 ans. 17 ans. Jeune. Il est jeune. Je souffre d'anxiété et j'ai des craintes par rapport à l'existence après la mort. Je ne sais plus quoi faire. Je ne peux plus bien dormir. Aidez-moi, s'il vous plaît. Bien sûr, peut-être vous n'avez pas le même niveau de crainte par rapport à la mort. Mais nous craignons la mort, n'est-ce pas? Nous dépensons beaucoup d'argent année après année pour éviter à la mort, pour prolonger nos vies. Nous tournons nos dos à la mort. Nous prétendons que la mort n'existe pas autour de nous. Mais en fait, la mort est partout. Ce n'est pas que en Syrie. Ce n'est pas que en Afrique. Elle existe en France. Et elle va arriver pour chacun de nous. Ça, c'est la réalité. Et la mort donne, incite la crainte. Mais l'incarnation, ça c'est ce qui s'est passé à Noël, l'incarnation efface la crainte de la mort. Nous lisons dans ce passage, en Hébreux chapitre 2, les versets 14 et 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, ça parle des hommes, des femmes comme nous, il y a également participé lui-même, ça parle de Jésus, le Fils de Dieu, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Et ce sont les mots de Dieu pour nous ce matin. Et ces mots peuvent nous consoler, mais aussi, ils peuvent aussi nous diriger vers la vie éternelle, si vous n'êtes pas en Christ. On va considérer ce passage en 5 parties, d'accord? Assez rapidement. La première partie, c'est que je veux bien qu'on note que l'incarnation est vraiment là dans ce passage. Chapitre 2 et le verset 14. Mais peut-être vous disiez, c'est quoi l'incarnation? D'accord? L'incarnation, c'est l'événement qu'on fête à Noël. Et l'incarnation, c'est quoi? C'est l'union en Jésus-Christ de la nature divine et la nature humaine. Ça, c'est ce que nous fêtons à Noël. C'est le fait que Dieu a pris sur lui l'humanité. Et on peut dire vraiment et avec justice, Dieu parmi nous dans l'homme Jésus le Christ. Ça, c'est Noël. Et ça, c'est l'incarnation. Est-ce que nous voyons l'incarnation dans le verset 14 du chapitre 2? Puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Et la réponse, c'est quoi? C'est oui. Quand il dit il y a également participé lui-même, il dit qu'il a pris sur lui quoi? Deux choses qui sont dans ce verset. Le sang et la chair. Le Fils de Dieu est devenu un vrai homme. Il n'a pas perdu sa divinité, mais il a pris sur lui l'humanité. Et c'est pourquoi l'Église, depuis le début, a affirmé avec force, Jésus est l'homme et Dieu, 100% l'homme, 100% Dieu. Ça, c'est l'incarnation. Mais qu'est-ce que fait l'incarnation pour nous? Noël, Est-ce que c'est que un moment magique pour les enfants? Est-ce que c'est un temps chaleureux pour la famille? Ou est-ce qu'il y a une signification plus profonde pour nous dans le deuil? On continue. Le deuxième point. Dans ces versets, on voit deux buts de l'incarnation, deux objectifs. L'incarnation s'est passée pour deux buts. Et quels sont les deux buts? Un but négatif. On voit les mots « afin que ». Afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Le diable avait la capacité de faire mourir. Mais quand Jésus est venu, il a rendu impuissant Satan, le diable. Et c'est pourquoi, c'est pourquoi nous ne vivons pas dans la crainte du diable si on est en Christ. Comme il peut faire n'importe quoi à nous. Non. Si on est en Jésus-Christ, Jésus a rendu impuissant le diable. Et nous sommes protégés. C'est pourquoi Jean dit en 1 Jean chapitre 2 que le diable ne peut pas même toucher le peuple de Dieu. Mais nous voyons deux choses, je veux qu'on voit deux choses dans cette partie. L'incarnation est liée intimement à la mort de Jésus. On ne peut pas penser à la naissance de Jésus sans penser à la mort de Jésus. Parce que voyons le verset 14 et 15. Nous lisons qu'il a participé lui-même afin que par la mort, Jésus a dû s'identifier avec nous afin qu'il puisse mourir à la place des pécheurs, comme nous. C'est-à-dire, Jésus ne pouvait pas venir en tant qu'un âne, un cheval. Il y avait pendant le Moyen-Âge des débats entre des théologiens. Est-ce que Jésus, aurait-il pu venir en tant qu'un âne pour sauver l'homme? La réponse est non, parce qu'un homme doit être... un homme doit être sacrifié pour un homme. C'est l'homme qui doit recevoir la punition du péché. L'incarnation est liée intimement à la mort de Jésus, mais aussi la mort de Jésus n'est pas une pensée après coup. En lisant les évangiles, parfois on peut conclure « Ah, Jésus ne voulait pas mourir !» Il est venu pour établir le royaume, mais tragiquement, il a été tué par les dirigeants des Juifs et les dirigeants de l'Empire romain. Mais non, ça ce n'est pas la vérité. Jésus est devenu homme pour mourir. Il avait toujours dans l'esprit, c'était sa mission, de se donner pour les péchés de beaucoup. Donc, on a cet but négatif qu'il rendra impuissant le diable. Mais il y a aussi un but positif dans ces versets, n'est-ce pas? Parce qu'on a ce mot « ainsi » qui fait le lien entre les deux. « Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. » Et on voit deux choses ici. L'incarnation vise la libération de l'âme. Nous vivons en France et nous fêtons quoi? La liberté individuelle, n'est-ce pas? Et ça, c'est un privilège qu'on a grâce à Dieu. Mais l'incarnation... Noël vise la liberté de votre âme. Dieu ne veut pas que vous viviez dans la crainte de la mort. Il ne veut pas que vous soyez en peur. L'incarnation vise la libération de l'âme. La crainte de la mort nous réduit à l'esclavage. Il faut le voir. Si vous vivez jour après jour et vous pensez à la mort, et la mort vous rend en peur, vous êtes l'esclave de la mort. Mais pourquoi avons-nous la peur, la crainte de la mort? Pourquoi craignons-nous la mort? Ça, c'est le troisième point. Le pouvoir d'asservissement de la mort. Comment la mort peut nous rendre des esclaves? Ça, c'est la question que j'avais ce matin. Le contexte de versets 14 et 15. Alors, regardez avec moi Hébreux chapitre 2. On ne peut pas prendre deux versets sans consulter un peu le contexte. Donc, le contexte d'Hébreux chapitre 2. Parce qu'il continue. Le verset 16, il dit « Pourquoi il est devenu homme ?» Car, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Donc, il parle des Juifs, mais aussi des descendants spirituels d'Abraham. Nous tous, hein? Des humains. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Pourquoi ? Afin qu'il soit un souverain sacrificateur, ça c'est le plus grand prêtre, d'accord? Miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu. Mais quel service? Que font des prêtres? Hein? Pour faire l'expiation des péchés du peuple, car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Donc, quand on pense au pouvoir d'asservissement de la mort, on peut voir certaines choses. On peut voir d'abord le contexte ici. Verset 17, l'auteur continue à discuter l'incarnation de Jésus, n'est-ce pas? Il a déjà mentionné l'incarnation. Maintenant, il revient sur le sujet en disant « Il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. » C'est l'identification complète, entière avec nous. L'incarnation, Noël. Hein? Ensuite, l'incarnation est liée au service d'un souverain sacrificateur, un prêtre. Ça, c'est clair, n'est-ce pas? Et après, il met l'accent sur quoi? Plus tard, en hébreu, il dit, les prêtres, les souverains sacrificateurs, ils font deux choses. Ils offrent des sacrifices. D'accord? Et ils prient. Mais Jésus, il a offert une fois pour tout, lui-même. Il s'est offert. Et c'est fait. Il ne reste plus de sacrifices. Et ça, c'est le service qu'il a rendu. Il met l'accent sur l'expiation des péchés. Et donc, dans le contexte qui est juste à côté, donc, il parle du fait qu'il est devenu homme, ça c'est l'incarnation, pour nous libérer de la peur, de la crainte de la mort. Après, il revient, il dit, il est devenu homme. Pourquoi? Pour être un souverain sacrificateur. Ah d'accord, pourquoi il doit être un souverain sacrificateur? Parce qu'il doit faire l'expiation des péchés. Donc, On peut faire le lien entre la crainte de la mort et quoi? Les péchés. Les péchés. Bon. Regardons maintenant le contexte plus large. En Hébreux, chapitre 9 et le verset 17, il annonce une vérité qui est répandue, qui est vraie pour tout le monde. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. D'accord? Tout le monde va mourir. C'est plus sûr même que les impôts. Après quoi vient quoi? Le jugement. Aujourd'hui, on nie qu'il y a des choses qui arrivent après la mort. Non, on devient la poussière. Je ne sais pas. Je me souviens une fois, juste devant ce bâtiment-là, j'ai parlé avec un homme. Et il m'a dit, moi, je suis scientifique, j'accepte pas qu'il y ait des choses après la mort. Et j'ai dit, ah, bon, d'accord, vous êtes scientifique, qui a observé qu'il n'y a rien après la mort? Parce que la science, c'est l'observation. En fait, ce qu'on a dans ce livre-là, c'est le témoignage des personnes qui ont vu quelqu'un après la mort. Jésus-Christ. Et il nous dit, après la mort, il y a le jugement. Et c'est le jugement qui cause la crainte. Qui aime être jugé, hein? Si vous êtes un étudiant, élève, vous devez aller devant votre professeur et vous allez être jugé dans les contrôles continus par les examens devant le jury. Hein? Et ça suscite quoi? Un peu de crainte, n'est-ce pas? Si vous êtes devant le tribunal, il y a des juges devant vous. Ça suscite la crainte. Pourquoi? Parce qu'il se peut que vous serez condamné si vous avez fait mal. Et donc, ça, c'est l'autre partie. Le jugement nous incite la crainte parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On le sait. Même si nous sommes des personnes très, très gentilles, hein? Nous payons nos impôts. Hein? Nous sommes les bonnes voisins, voisines. Nous savons que dans nos cœurs, nous sommes des pécheurs contre le plus grand commandement. Aimez les prochaines comme vous-même. Je confesse que j'ai jamais aimé les autres comme je m'aime. Parce que je m'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et vous n'avez jamais fait non plus. Et ce qui est pire, Dieu dit, vous devez aimer Dieu avec tout ce que vous êtes. Votre intelligence, votre force, vos émotions. Et jour après jour, vous aimez les idoles. Vous n'acceptez pas que Dieu doit être au centre de votre vie. Et moi non plus. Nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et c'est nos péchés qui rendent le jugement effrayeux. C'est à cause de ça que la mort peut nous rendre des esclaves. Mais maintenant, il faut continuer et considérer la puissance de Jésus sur la mort. Amen. Ce matin, si vous êtes en Christ, votre confiance est en le fait que Jésus est plus puissant que la mort. Dans le passage, Hébreux chapitre 2, nous voyons que sa puissance est liée à son sacerdoce ou sa prêtrise, le fait qu'il est un prêtre. Parce qu'il dit, chapitre 2, le verset 17, « En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu. » Quand Jésus est né, il est né un roi, ça c'est vrai. Mais ce n'est pas comme un roi qu'il a détruit la mort. C'est comme un sacrificateur qui s'est donné lui-même pour des pécheurs comme nous. En tant qu'un sacrifice parfait qu'il a vaincu la mort. Et sa puissance est liée à l'expiation des péchés. C'est quoi l'expiation? J'ai trouvé cette définition. C'est un rite effectué pour apaiser la colère divine. Je trouve que ça, c'est une bonne définition. C'est quoi l'expiation? Qu'est-ce que Jésus a accompli sur la croix quand il a dit « C'est fini! J'ai accompli ce que je suis venu pour faire. » Il a apaisé la colère divine. Il a pris la coupe de la justice de Dieu contre le péché. Et il a pu dire, c'est fini. Il ne reste plus la justice contre le péché. Ça, c'est sa puissance. Ça, c'est la puissance de Jésus. Et pourquoi son expiation est efficace? Parce que avant Jésus, il y avait des millions de taureaux, des boucles et d'autres animaux qui ont été tués en sacrifice pour les péchés. Pourquoi Jésus, son expiation est efficace? En hébreu, on trouve au moins trois raisons. D'abord, Jésus n'était pas obligé d'offrir les sacrifices pour lui-même, parce qu'il était, il est parfait, il est juste. Jésus a dit devant le monde, il a dit, je fais toujours les choses qui plaise au Père. C'est-à-dire, j'ai jamais violé la volonté de mon Père. Personne ne peut le dire, sauf Jésus. Et dans sa justice, il n'avait pas besoin d'offrir un sacrifice pour lui-même. Il peut sacrifier, il peut se sacrifier, se donner pour lui, pour nous. En fait, c'est à cause de ça qu'il est un meilleur sacrifice. Chapitre 9, en hébreu, et les versets 11 à 12, nous lisons ces mots. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des bienvenus. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Il a obtenu, c'est fini, c'est fait. Et c'est à cause de ça, en raison de ça, que son expiation est efficace. Et en fait, il vit à jamais. Parce que les chrétiens se réunissent le dimanche parce que Jésus est ressuscité le dimanche. Et nous fêtons le fait que Jésus vit maintenant, même maintenant, dans les cieux, au droit du Père. Jésus vit, il règne et il va revenir. Et avec cette vie éternelle, il exerce une intercession éternelle. pour un salut éternel. Chapitre 7, du chapitre 7, en hébreu, nous lisons ces mots. Mais lui, il parle de Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Parce qu'il ne meurt pas. Il n'a pas besoin de quelqu'un qui vienne après lui. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Et si vous êtes venu ce matin, vous n'êtes pas chrétien, chrétienne. Peut-être vous posez la question, c'est quoi un chrétien? C'est quelqu'un qui vient au Père à travers Jésus le Christ. Quelqu'un qui cherche le Père à travers le Fils. Et c'est grâce à cette efficacité de son expiation que le chrétien, la chrétienne, a de la liberté. On n'a pas peur de la mort. Pourquoi? Pourquoi pas? Parce qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça, c'est une vérité précieuse pour nous. On a vu, hein, l'incarnation. Jésus est devenu un homme. Pourquoi? Pour nous libérer de la peur de la mort. Mort. Comment? Il est devenu un homme pour être un sacrificateur qui peut s'offrir pour les pécheurs parfaitement. Et par sa résurrection, il a gagné la victoire sur la mort. Et maintenant, tous ceux qui se trouvent en lui, ils ont aussi la victoire sur la mort. Parce qu'ils vont vivre à jamais avec lui. Ça, c'est la liberté d'un chrétien. Et je veux terminer avec une petite histoire que j'ai lue il y a quelques-uns, hein, je ne sais plus maintenant. C'est un livre qui a été écrit par un homme qui s'appelle Nate Saint. Donc, son père a été tué en 1956. Il était un missionnaire. Il a été tué par les Indiens Oka en Équateur. Et Nate Saint, il raconte dans le livre comment il a invité deux hommes de la même tribu, Oka, à venir aux États-Unis pour rendre visite aux églises américaines. Ça, c'est peut-être 50 ans après, 40 ans après. Et lors de leur visite, l'une des filles de Steve Saint est retournée aux États-Unis après un an de mission en Tunisie. Donc, c'est une fille qui aimait Dieu. Elle voulait donner sa vie à Dieu, donc elle est allée pendant un an en Tunisie. Le jour de son arrivée, cette fille est tombée gravement malade avec une hémorragie cérébrale. D'accord? Le SAMU est venu pour la chercher et l'amener aux urgences. Steve, qui est le père, est allé dans l'ambulance avec sa fille, mais la mère avec l'un des Indiens, qui s'appelle Mikaya, est y allée en voiture. Quand la mère et cet Indien sont arrivés aux urgences, Minkai a trouvé la fille qu'il considérait comme sa petite fille, sans connaissance, et le père Steve bouleversé. Mais il ne parlait pas l'anglais. Au début, Minkai était vraiment troublé, mais après quelques minutes, Steve témoigne que Minkai était vraiment en paix. Et tout d'un coup, Minkai criait, « Maintenant, je vois clairement. » Je vais mettre ces mots sur l'écran et le mur. Il a dit, « Maintenant, je vois clairement. Ne vois-tu pas, C'est l'Éternel lui-même qui le fait. Il prend ta fille pour vivre avec lui au ciel. » Ensuite, il a commencé à parler aux autres, aux urgences, mais dans sa langue maternelle. Et il a dit, « Les gens, ne comprenez-vous pas ce qui se passe ? L'Éternel, dans son amour pour cette fille, la prend pour qu'elle puisse vivre avec lui. Moi, je suis âgé et j'y vais bientôt. Si seulement vous marchez sur son chemin, quand vous mourrez, vous pouvez aller au ciel et cette fille et moi seront là pour vous saluer. » C'est beau, n'est-ce pas? C'est un homme qu'avant, c'était l'un des hommes qui a tué le grand-père de cette fille. Mais maintenant, quand il le voit en train de mourir, hein, parce qu'elle est morte ce jour-là, il a dit, « Non, je crois. Il y a une vie après. Et si vous êtes en Jésus-Christ, vous serez avec Dieu. » Et en fait, la mort, ce n'est pas une punition, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Et Steve Saint, il a écrit après, « Encouragé par le témoignage de cet homme sauvage. » Le père et la mère de cette fille ont quitté les urgences après la mort de leur fille, main à main, et je cite, et en paix. L'incarnation efface la crainte de la mort. Parce que Jésus a vaincu. Jésus a vraiment transformé la mort. Pour une chrétienne comme cette fille, la mort n'est plus un tyran cruel. Elle est la porte du ciel. Mes frères et sœurs, pour Marcel, la mort était la porte du ciel. Jésus a dit, elle n'a pas même vu la mort. Elle a vu la vie physique sur terre et ensuite elle a vu la vie éternelle avec son Sauveur. Et si vous êtes un chrétien, une chrétienne ce matin, ce n'est pas un péché d'être attristé. Vous ne devez pas prétendre que vous n'êtes pas troublé, inquiété, touché par la mort, parce que la mort n'est pas naturelle. On a déjà vu le serre-livre, hein? Perfection, perfection. Mais entre, on a la mort. Et la mort est horrible, terrible, causée par le péché. On peut être attristé, mais comme Paul nous a dit, il ne faut pas être attristé sans espérance. Et quelle est notre espérance? C'est une personne, c'est Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, qui est devenu homme. Et ça, c'est la raison qu'on fête Noël. Il est devenu l'un de nous. Et peut-être vous êtes venu ce matin et vous n'êtes pas chrétienne, d'accord? Vous êtes toujours sous l'esclavage de la mort. Parce que quand la mort arrive pour vous, vous serez jugé. Sans doute, Dieu dit, après la mort, le jugement. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? Ce n'est pas que vous pouvez passer par le juge parce qu'il va fermer ses yeux. Non. Un juge juste ne peut pas fermer ses yeux à vos péchés. Quelle est l'espérance que vous avez? Votre seule espérance, c'est que vous croyez en Jésus-Christ et que vous vous repentez de vos péchés. Donc, ça c'est la bonne nouvelle. Dieu acceptera tout ce qui croit. Vous n'êtes pas obligé d'être parfait. Vous n'êtes pas obligé d'être, de travailler et d'avoir 51% des bonnes œuvres. Non, ça ne marche pas comme ça. Dieu dit, je pardonne gratuitement en Jésus-Christ. Mais il faut croire en Jésus-Christ. Et il faut se repentir de vos péchés. Ça, c'est l'Évangile et comment l'Évangile, l'incarnation de notre Sauveur, peut nous soulager dans notre tristesse.